que ce soit dans votre église, qui travaille dans le séculier, n'osent pas croire qu'ils peuvent être une influence pour Dieu parce qu'ils n'ont jamais été formés, ils ne savent pas quoi faire. Et quelqu'un qui ne sait pas comment appliquer les choses va avoir tendance à rien faire. Parce qu'on a peur. On a peur de se tromper. On a peur d'avancer. On a peur d'être pas bon. Hein? Il y a plein de peurs qui nous animent. Et de juste de mettre un outil comme cela entre les mains des gens autour de vous, vous allez les faire rêver. Ils vont « Wow, je peux accomplir cela. Wow, ceci, cela, en tout cas, peu importe. Je peux accomplir des choses. Ah, si je fais ça de telle façon, ça va m'aider. » Alors, je vous encourage, faites rêver les gens autour de vous. Faites-leur rêver. Il y a des gens que leur rêve pour Dieu n'est pas assez grand et ils ne sont pas capables d'atteindre le maximum des rêves qu'ils peuvent avoir pour Dieu parce qu'ils n'ont pas d'outils dans leurs mains. Et je crois, il y a des gens qui sont venus me dire tantôt, c'est vraiment, ils se demandaient, est-ce que ça va être applicable dans l'Église? Et je pense qu'on le voit, c'est très applicable dans l'Église. Mais plus que ça, mon rêve, c'est de développer des leaders dans le séculier qui ont une influence pour la gloire de Dieu. C'est pas juste de nous encore s'enfermer dans nos quatre murs d'église et former nos gens dans nos églises. Il y a des hommes d'affaires qui ont besoin de ce matériel-là entre leurs mains. Il y a des docteurs qui ont besoin de ce matériel-là. Il y a des, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, mais nous on appelle ça des gens qui s'occupent des enfants dans les garderies. Il y a des madames, des mères qui ont besoin de ce matériel-là dans leurs mains pour les faire rêver. Ça, avoir du leadership et déjà investir dans des jeunes de 2, 3, 4, 5, 6 ans en train d'élever la prochaine génération. Alors, utilisez, s'il te plaît, ne gardez pas ce matériel pour vous. Utilisez-le. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à avoir des relations humaines et c'est ça qu'on va parler. Ça ne sera peut-être pas la voyons. Je commence à manquer d'air dans mon cerveau. Il y en a-tu qui commencent à manquer d'air dans leur cerveau? Juste prendre une grande respiration. Ce ne sera peut-être pas la session la plus longue, mais vraiment intéressante. Le point qu'on veut vraiment développer, le point central, il faut développer nos relations humaines. Le but d'un pasteur, d'un leader, c'est aimer les gens autour d'eux. C'est ça notre but. Alors, la seule pensée de cette session-ci, si vous pouvez retenir quelque chose, il faut aimer les gens, frères et sœurs. Il faut les aimer, on va développer ça. Parce que les relations, êtes-vous d'accord avec ça? Des fois, les relations sont douloureuses. Hein? Ils sont... J'ose pas dire toujours, j'aime pas utiliser les mots jamais et toujours, mais... Elles sont douloureuses par moments, mais j'aimerais mieux dire que nos relations sont merveilleuses. Et pour ça, il faut être capable de travailler sur nos relations, travailler sur nos amitiés, aimer les gens autour de nous. J'ai dit quelque chose hier, qu'il y a trois faiblesses qu'il ne faut jamais négliger. Est-ce que vous en rappelez? C'est quoi? Discipline personnelle, relationnelle, et l'autre, c'est presque dans notre caractère. S'il y a trois faiblesses qu'on doit toujours travailler, c'est notre caractère. On ne peut pas se permettre de laisser des choses rentrer dans nos vies qui vont nous détruire. On ne peut pas laisser aussi le mauvais caractère diriger nos vies. Il y a une autre chose qu'on doit toujours, si vous êtes paresseux, il faut travailler là-dessus, frères et sœurs. Le Seigneur nous enseigne dans les proverbes que la fourmi est un exemple pour nous. La fourmi n'a pas de boss, mais elle travaille. Elle travaille très fort. Elle travaille en équipe. Alors, c'est un exemple pour nous. Il ne faut pas être paresseux, travailler sur notre paresse. Et une chose qu'il faut faire, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Il faut travailler sur nos relations humaines. John Maxwell dit ceci, celui qui pense... Quiconque pense diriger sans avoir des personnes qui le suivent ne fait que se promener. Je vais vous le répéter, mais c'est écrit dans vos, Je vous ai joué un tour. J'ai l'air intelligent comme ça. Hein? Mais quiconque pense diriger sans avoir de personne qui le suive ne fait que se promener. Ici, un exemple qu'on doit suivre, et on en parlait tout au long de la session, mais Jésus est l'exemple la plus parfaite de quelqu'un qui aimait développer des relations. Jésus a toujours développé des relations. Jésus n'avait pas peur de toucher les gens. Jésus n'avait pas peur d'étendre sa main. Jésus, ça même dit qu'il était animé de quoi? De compassion. Souvent, tout ce qu'il voyait, ça dit qu'il était... Oh! Il fut ému de compassion. Et ému de compassion, c'est plus qu'un sentiment, frères et sœurs. Parce que de la compassion sans action, c'est pas grand-chose. Ça n'amène pas beaucoup de résultats. Mais ça dit que Jésus était ému de compassion. Et quand on regarde dans le grec, ça veut dire qu'il était bouleversé ici. Dans ses entrailles. Il est dans ses entrailles, il était bouleversé, il était remué. Ça le touchait tellement, ce que les gens vivaient. Ça le touchait la pauvreté, la maladie, aussi que les gens vivent sans la vérité de qui Dieu était vraiment. Ça le touchait qu'il avait mal au ventre presque. Et ça le bouleversait tellement qu'il ne pouvait pas continuer son chemin sans faire quelque chose. Et je crois qu'on doit demander à Dieu d'avoir la compassion de Jésus dans nos vies. On doit demander au Seigneur de venir vraiment nous bouleverser et qu'on puisse découvrir la passion qui animait Jésus. Et on va en parler à différents niveaux. On va parler de l'histoire du bon samaritain. Il faut être capable de développer ce cœur-là, ce cœur de voir progresser les autres, le cœur de voir les autres à se rapprocher de Dieu. Juste pour commencer avec un exemple très biblique, peut-être vous connaissez l'histoire de Abigaël et de Nabal. Une histoire qu'on ne parle pas souvent, et David, mais c'est une histoire qui représente très bien une personne qui se fout des relations humaines et une autre personne qui aime les relations humaines. Et si vous connaissez l'histoire un peu, David est en fuite avec ses guerriers et a décidé de protéger les bergers de Nabal. Qui peut-être ont été, attaqués ou quelque chose, mais il a décidé de les protéger. Et un jour, il se présente devant Nabal, il envoie des gens pour aller le voir. Il dit, « Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en échange, me donner de la nourriture à moi et mes amis? » Et Nabal l'envoie, je ne sais pas si ça se dit, paître. C'est pas méchant, c'est correct, ça se dit bien. Il l'envoie paître, dans le sens qu'il ne veut rien savoir de lui. Et ça l'offusque un petit peu David. Et David est même prêt à aller lui faire comprendre qu'il n'a pas apprécié la réaction. Je viens de protéger tes bergers. Je viens de protéger tes ressources. Je te demande juste en échange, s'il te plaît, est-ce qu'on peut développer un partenariat? Je vais te protéger, mais j'ai besoin de nourriture. On est en fuite. Et Nabal s'en fout. Pourtant, je pense que Nabal aurait probablement déjà entendu parler de David. Je ne sais pas, mais ça a l'air que quand David a battu Goliath, tout le monde l'a su. Parce qu'ils ont même écrit des chansons là-dessus. Je pense que Nabal devait savoir c'est qui était David, mais il n'a pas pris soin de se préoccuper de développer une nouvelle. Et c'est triste. C'est triste. Abigaël a sauvé sa famille et Nabal a presque détruit sa famille à cause d'un manque de relation. On va juste voir les échecs de Nabal dans sa relation. Premièrement, il était tellement préoccupé par son travail et sa vie personnelle qu'il a oublié de mettre la valeur dans les gens. Il était en party, il était dans ses choses à lui, ça ne lui dérangeait pas ce que David pouvait vivre, ce que quelqu'un d'autre pouvait vivre, ça ne le dérangeait pas. Et il était trop préoccupé par lui-même, trop préoccupé par ses choses à lui. Pasteur, il ne faut jamais être trop préoccupé pour prendre soin des gens. Il ne faut jamais être trop préoccupé pour arrêter de prendre soin des gens. J'ai-tu dit quelque chose de drôle? Je voulais juste vérifier. Le jour qu'on est trop occupé à faire grandir nos programmes, à faire grandir notre Église et qu'on oublie que ce qui est important, c'est les gens. On fait fausse route, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu sur terre pour établir des programmes. Jésus n'est pas venu sur terre pour... j'ai aimé ce « Amen-là ». Il sortait des entrailles. Et vraiment, là, il y avait de la compassion là-dedans. Je crois que Dieu ne nous a pas appelés à tout faire pour attirer les gens. Dieu nous a mis simplement de les aimer. Et des fois, on est tellement préoccupé par les choses qu'on doit faire qu'on oublie qu'on doit aimer les gens. Nabal est devenu riche. Il ne pensait plus qu'il était nécessaire de bâtir des relations. Nabal est devenu égoïste. Il ne pouvait plus passer par-dessus son mauvais caractère. Nabal a développé une mauvaise attitude et ne va plus recevoir d'être des encouragements ou d'être enseigné. Il avait oublié ses bénédictions du passé. Il ne voyait les choses que comme des pertes. Il ne voyait aucune raison d'aider les autres. Il était centré sur lui. Et finalement, Nabal a voulu construire son royaume au lieu de construire le royaume de Dieu. Et le jour que tu commences à vouloir construire ton royaume, c'est là que tu oublies que ce n'est pas pour toi que tu fais le ministère, c'est pour les gens autour de toi. Ce n'est pas pour attirer plus de gens envers toi que tu es un leader. C'est au contraire pour élever le plus de gens autour de toi. C'est ça l'ouvrage, c'est ça le désir, le cœur d'un leader. Et Abigaël, elle a sauvé sa famille. Elle a été courageuse. Elle est allée nourrir David. Est allé s'humilier, est allé demander pardon pour son mari qui était un pauvre innocent. Elle s'est humiliée devant, elle a développé des relations avec David. Et j'aime la fin de l'histoire. Son mari est mort et elle a marié David. Ça finit bien. C'est 1 Samuel 25, si vous voulez aller lire l'histoire. Elle a développé une relation amicale avec quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça le cœur d'un leader, frère et sœur. C'est ça le cœur d'un leader. L'être humain, première réponse à écrire ici, quatre vérités concernant le leadership. L'être humain est le capital le plus apprécié de l'Église. L'être humain est la richesse la plus appréciée de l'Église. Si vous êtes tout seul, vous n'avez personne dans votre Église, vous n'êtes pas vraiment un bon leader. Même si vous avez une belle bâtisse, même si vous avez tous les PowerPoint, toute la technologie, même si vous avez des beaux instruments, si vous avez la plus belle bâtisse, vous n'avez pas de gens à l'intérieur, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes en train de promener, faire une marche, comme on dit. Vous êtes en train de vous promener. Le capital, la richesse la plus importante que vous avez, c'est vos gens. Si vous n'avez plus de gens dans votre église, s'il n'y a plus de gens qui vous suivent, vous n'avez plus de ministère, frère et sœur. Alors, il faut prendre soin de prendre les gens. Moi, j'ai été tellement blessé par des divisions dans les églises. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà vécu des divisions, mais j'en ai déjà vécu deux. Deux avant l'âge de 17 ans. Et laissez-moi vous dire que ça donne beaucoup d'expériences négatives. Ça tourne au positif quand tu sais comment bien les gérer, mais... Entre 10 et 17 ans, quand tu vois des églises se diviser pour la couleur du tapis, pour si le drum il joue trop fort ou pas trop fort. Et moi, deux fois, j'ai perdu tous mes amis parce que mon église s'est divisée en deux. Et si je me suis promis une chose en tant que pasteur, jamais je vais être impliqué dans une division. Jamais. Je dois être jamais égoïste de penser que je perds quelque chose au point de diviser une église pour prouver mon point. Ça, ça se dit-tu dégueulasse? Hein? Ça se dit-tu en Suisse? Non, j'aime les Suisses. Et c'est dégueulasse. Je crois que c'est le plus bas niveau de l'être humain dans le leadership chrétien. C'est de faire penser ta propre opinion avant le bien de l'Assemblée, avant le bien de l'Église. Je crois que si tu n'es pas capable d'emmener la vision que tes gens te suivent dans l'amour, c'est parce que tu fais mal ton ouvrage. C'est parce que tu le fais et arrêtons de voir les gens comme quelque chose qu'ils peuvent nous apporter. Commençons à voir les gens pour la valeur qu'ils ont. On va en reparler un peu plus tard. Deuxième réflexion, l'atout le plus important pour un leader, ce sont les compétences en relations humaines. Son habilité de s'investir, son habilité de motiver les gens, son habilité d'entraîner, d'équiper, d'encourager, son habilité d'amener les gens à atteindre le plein potentiel. Ça, c'est une des plus belles qualités qu'un leader ne peut pas avoir. Avoir un cœur intègre pour Dieu et ensuite avoir des relations humaines qui encouragent. On est là pour encourager, frères et sœurs. On est dans le ministère de la réconciliation. On est dans le ministère de l'encouragement. On n'est pas là pour détruire. Oui, il y a des moments où les gens font des erreurs, mais encore là, on va les chercher, on les remet sur place, on les brasse un petit peu gentiment avec amour, hein, avec une belle amour pastoral, et on met dans l'amour, on les relève, on les encourage. Parce que le but, c'est pas de détruire les gens, c'est de les encourager. C'est de les relever. C'est qu'ils atteignent le plein potentiel. Alors, nous, c'est important qu'on développe nos relations humaines. Les gens sont bien plus importants que l'argent, frères et sœurs. Si vous aimez les gens, si vous aimez les gens pour l'argent qu'ils donnent dans l'offrande, vous faites erreur, frères et sœurs. Si vous ne parlez pas à un frère parce que vous êtes frustré qu'il ne donne pas dans l'offrande, frères et sœurs, vous faites erreur. Ça rime, frères et sœurs, vous faites erreur. Moi, je ne sais pas qui donne à mon église. Comme ça, je peux serrer la main et investir dans toutes les gens. Parce que Dieu ne m'a pas dit, celui qui donne plus, tu l'aideras. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Je peux-tu la compter? Tu me donnes-tu la permission de la compter? Il y a deux messieurs qui se perdent sur une île déserte. Et les deux hommes sont vraiment perdus, puis ils se demandent qu'est-ce qui va passer. Puis un des hommes, il dit, oh, je pense qu'on va mourir ici, il n'y a jamais personne qui va nous trouver ici, c'est impossible. Et l'autre, il dit, non, inquiète-toi pas. Il dit, merci, Philippe. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, moi, je suis médecin et je fais 100 000 $ par mois et je donne ma dîme à tous les dimanches. Il dit, mon pasteur, il va me trouver, ça c'est sûr. Alors, vous savez quoi faire si un jour vous êtes sur une île déserte. Donnez votre dîme. Un bon leader peut être leader de plusieurs groupes car le leadership s'appuie sur les individus. Et quatrièmement, vous pouvez avoir le contact facile et ne pas être un bon leader, mais vous ne pouvez pas être un bon leader sans capacité relationnelle. Il y a des gens qui sont venus à Jésus et qui ont demandé qui est mon prochain. Et le pharisien, il voulait vraiment essayer d'attraper Jésus dans sa question. Et Jésus répond et dit, bien, juste avant, il venait de répondre, aime, quel est le plus grand commandement? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et aime Dieu comme. Aime ton voisin plutôt comme toi-même. Et l'autre, il dit, il voulait se prouver. Il a dit, oui, mais c'est qui mon voisin? C'est qui mon prochain? C'est qui il faut que j'aime? Est-ce qu'il y en a que je ne peux pas aimer et aimer? Et Dieu dit, non, aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, il rencontre l'histoire du bon samaritain. Vous savez, il y a deux façons de voir la sainteté. Les prêtres et les religieux du temps voyaient la sainteté comme s'éloigner des gens. Ils voyaient la sainteté comme se mettre à part. Ils ont vu la sainteté comme les gens de mauvaise vie, on doit s'en éloigner. A été leur façon de voir la sainteté. Jésus a vécu sa sainteté d'une toute autre différence. Il a vécu sa sainteté en aimant Dieu de tout son cœur, de tout son être, et les gens autour de lui qui étaient de mauvaise vie, il se faisait un plaisir d'aller discuter avec eux autres. Est-ce que Jésus a péché, frères et sœurs? Jésus n'a jamais péché. Pourtant, il a été autour des pécheurs toute sa vie. Il a été autour de pécheurs toute sa vie. On l'a même appelé à un moment donné l'ami de qui? L'ami des pécheurs. Pourtant, Jésus a été l'homme le plus saint de cette terre. Jésus a vécu sa sainteté en voyant les besoins dans les vies des gens. Il faut, laissez-moi vous dire, être saint, frère et sœur, c'est pas changer de trottoir quand quelqu'un est pauvre ou quand quelqu'un semble un peu bizarre. La sainteté, c'est aller leur tendre une main tendue et s'occuper d'eux. Amen? C'est comme ça qu'on vit notre sainteté. Êtes-vous en forme? Yes! On avance. Dans l'histoire du bon samaritain, souvent, la façon dont on se voit, c'est la façon dont on va voir les autres. La façon dont on se voit, c'est la façon dont on va voir les autres. Et les brigands, quand ils ont vu l'homme qui est, quand ils ont vu un homme marcher sur le bord du chemin, ils ont vu quelqu'un à prendre quelque chose de lui. Ils n'ont pas vu à aimer, ils n'ont pas vu à l'encourager. Ils ont dit, ah, c'est quelqu'un qu'on peut profiter de lui. Et ça, il faut faire bien attention. C'est-à-dire qu'ils ont vu cet homme comme une victime à exploiter. Les brigands ont utilisé les gens et ont manipulé les autres. Et je peux être franc avec vous, il y a certains pasteurs qui sont des brigands. Et je sais que vous ne m'aimerez pas en disant ça, mais il n'y a personne ici dans cette salle qui est comme ça, j'en suis sûr. Mais des fois, on agit en brigand. Et on pense que les gens, on peut les manipuler pour qu'ils fassent ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Erreur. Les gens ne sont pas des personnes à exploiter, ce sont des personnes à aimer, à encourager. Alors des fois, ce qu'il y a dans notre cœur va nous faire sortir comment on voit les gens. Les leaders religieux, eux, ont vu cet homme comme un problème à éviter. Ouch! Les religieux, ça fait mal ça. Ils étaient les gardiens de la loi. Eux étaient purs. Ils étaient purs et ont vu la personne qui a été battue comme une personne à éviter. Ils étaient plus concernés par leur propre intérêt que le problème de la personne qui était autour d'eux. Ils ont vu la personne qui a été battue comme un problème à éviter. C'est-tu triste? Hey, à ce que je sache, Dieu nous appelle des bergers. Dieu nous appelle à prendre soin des brebis égarées. Dieu nous appelle à quitter les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Notre rôle, ce n'est pas d'éviter les problèmes. C'est de s'assurer que les gens soient rencontrés, encouragés. Peut-être que ce ne sera pas vous qui va le faire, mais assurez-vous que quelqu'un le fasse. Amen. Et plutôt, le bon samaritain a vu cet homme-là comme une personne à aimer. Et non comme une personne à exploiter ou à éviter. Premièrement, cette personne a été blessée, le Samaritain. Vous savez que les Samaritains étaient mis de côté dans ce temps-là, étaient ridiculisés. Savez-vous, une des places que vous pouvez plus aider les gens, c'est à travers les blessures que vous avez eues dans votre pensée. Je crois qu'il n'y a aucune blessure qu'on a vécue que Dieu laisse tomber sans qu'elle puisse avoir un effet sur quelqu'un d'autre. Moi, si j'ai vécu presque la dépression, je peux comprendre fortement quelqu'un qui va être épuisé et qui va être sur le banc de la frustration, la dépression. S'il y a quelqu'un qui vit la division dans son église, j'ai été blessé par ça, je vais être le premier à pouvoir comprendre. Et Dieu va utiliser vos blessures, frères et sœurs. Ça fait mal, une blessure. Ça fait très mal. Mais ne perdez jamais espoir de savoir que Dieu va utiliser un jour ou un autre les blessures pour sa gloire. Amen. Et Dieu va les changer pour sa gloire. Amen. C'est bon ça. Hallelujah. Ma question que j'ai pour vous, c'est comment vous voyez les gens autour de vous? Comment vous voyez les gens autour de vous? Avec quelles lunettes vous voyez les gens autour de vous? Et j'ai une petite vidéo pour vous. Ça vous tente-tu de voir une petite vidéo? Vous ne serez pas insulté, il est en anglais. Est-ce que je vous insulte, s'il est en anglais? Est-ce que vous voulez que je vous traduise ou vous êtes assez... Vous voulez que je vous traduise un petit peu? OK. Alors, si on, est-ce qu'on peut éteindre les lumières? Peut-être que ça serait mieux. Tu fais ça, Thierry? Attendons deux secondes avant de le commencer. Avec quelles lunettes vous voyez les gens? C'est vraiment intéressant. Je vais essayer de vous traduire le mieux possible sans couper les phrases, OK? Être servi pour recevoir un service. À chaque fois que je retourne, je recule de ma cour, il est toujours dans le chemin. Il n'y a rien à faire, ce jeune-là? À chaque jour, il y a du trafic. Je suis tellement tanné d'être ici. Oh, un stationnement. Bon, c'est ça. Tu ne m'as pas vu? Merci, madame. La princesse des stationnements. Hein? Rien pour me considérer, moi? Oh non. C'est pas croyable. Ah, enfin. Bon, qu'est-ce que je veux? Pas de problème, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux savoir un café? Ça va prendre du temps, alors on a une grande ligne, alors s'il te plaît, merci pour votre patience. Bon, encore attendre. Incroyable. Quoi? Quoi? Il y a plein de mots qui apparaissent. Mécontent avec la vie. Évite les relations à cause de peur d'être blessé. Pas content avec la vie. Ne trouve pas le sens de sa vie. Ne connaît pas de vraies relations. A perdu son emploi. Combat la dépendance. Aurait juste besoin d'une collade. Elle travaille deux jobs pour nourrir ses enfants. Son meilleur ami vient de mourir. Elle est en chicane avec son mari. Il pourrait avoir, s'il te plaît, elle a fait trois jours qu'elle est partie de la maison. Il a juste besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est bon, hein? Ça vient nous chercher même. Comment vous voyez les gens autour de vous, frères et sœurs? Qu'est-ce que les gens vivent avant de réagir à comment ils agissent dans la vie? Qu'est-ce qu'ils vivent? Peut-être une personne qui agit mal dans votre église, mais est en train de se chicaner avec son mari. Ce petit jeune homme-là a juste besoin, il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il est fatiguant parce qu'il y a déjà ses parents qui trouvent qu'il est fatiguant à la maison. Il a juste besoin de quelqu'un qui va s'occuper de lui, qui va lui envoyer la balle de football juste pour jouer avec lui, qui va prendre soin de lui. Il faut voir les gens avec les yeux de Jésus, frères et sœurs. Il faut voir les gens avec la compassion de Jésus. Il faut voir les gens avec le cœur de Dieu, pas avec ce que les gens font qu'ils font pas. Il faut voir les gens avec le potentiel que Dieu a mis en eux. Et si on regarde de cette façon-là, on va croire en les gens. On va les encourager. On va les élever. John Maxwell dit ceci. Il dit, mettez un 10 dans le front de chaque personne que vous rencontrez. Mettez un 10 sur une échelle de 1 à 10. Chaque personne que vous rencontrez, je pourrais vous mettre un collant dans le front aujourd'hui puis vous dire, t'es un 10. C'est quoi ton nom?
Emmanuel,
t'es un 10. Yes! T'es-tu content?
Yes.
J'aurais pu dire 1. T'es un 10. Et quand on met cette valeur-là sur les gens, on va s'en occuper comme s'ils sont des 10. Est-ce que vous comprenez? On va mettre de la valeur. Si on met de... Il y a des gens qui sont fatigants. Ça se dit-tu ici, fatigants? Hein? Qui nous tapent sur les gros nerfs. Ça se dit? Je suis un vrai Français. Et on dit, ils nous tapent sur les gros nerfs. À la place, on dévalue leur valeur. Puis on dit, c'est des 1, c'est des 2, on veut rien savoir de eux. Hey, c'est pas ça le cœur d'un pasteur. C'est pas ça le cœur d'un leader. C'est de voir les gens à leur plein potentiel. Parce que Dieu les voit à des 10. Et Dieu vous a tellement vu à des 10 qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour vous tant qu'il vous aimait. Et nous aussi, il faut être prêt à sacrifier quelque chose pour aimer les gens. Il faut être prêt à sacrifier quelque chose. Amen. Dieu veut vous donner des yeux pour aimer les gens. Le leadership, c'est relationnel, frères et sœurs. Le christianisme est basé sur des relations. Tu aimeras ton Père, Dieu, de tout ton cœur, toute ta force et toutes tes pensées. Et tu aimeras ton voisin. Comme toi-même. Bravo. La première relation que Dieu nous demande d'avoir, c'est verticale, entre nous et Dieu. Et la deuxième relation, quand j'ai le cœur de Dieu, quand je suis dans sa présence et qu'il dépose en moi son amour, sa compassion, je dois aussi avoir une relation horizontale avec les gens. Écrivez cette phrase-là, ça va vous bouleverser. Il faut seulement pour la deux clés pour un réveil en France. Il faut non seulement avoir un réveil personnel, il faut un réveil relationnel. Vous êtes supposé de faire ouh là présentement. Savez-vous, on cherche souvent que le réveil va venir, puis nous, on est en feu, et nous, on vient dans les églises, on veut le feu de Dieu, on veut l'Esprit de Dieu. Il faut commencer pour avoir un réveil relationnel, que Dieu dépose en nous un amour pour votre voisin. C'est comme ça que le réveil va vraiment arriver. Quand on est en feu dans notre relation avec Dieu, quand on a un réveil personnel, on est tout excité, amen. On est tout excité. Ensuite, il ne faut pas juste prier pour qu'on ait le réveil dans la présence de Dieu et motivé, mais qu'on ait un réveil relationnel et qu'on voit les gens comme, wow, Seigneur, il veut la sauver, Seigneur, il veut la toucher, Seigneur, il veut la transformer. Et là, le réveil va se partager autour de nous, amen. Parce que là, on veut des réveils à rien faire. On veut des réveils où que Dieu fait tout seul. Et que nous, on est dans l'église, puis on veut le réveil, on veut le réveil. Puis nous, on est en feu, mais on voit jamais de réveil personnel. On n'a jamais de réveil relationnel pour dire, « Wow, le voisin, il faut que je l'aime autant comme moi je m'aime. » Ça prend un gros « Amen » à ça, frère et sœur. Non, vous n'êtes pas convaincus. Ça prend vraiment un gros « Amen ». Yes! Là, vous parlez, là. Là, vous parlez. Là, je vous aime. Ben, je vous aimais avant, mais là, je vous aime vraiment. Oh, on passe tout ça, on fait tout ça. Oh, je peux-tu vous parler? Ça vient de moi, mais je peux-tu... Jésus était le meilleur expert sur les relations. Laissez-moi vous donner 5 principes de relations que Jésus avait, OK? On va mettre John Maxwell 2 minutes de côté, OK? Juste 2 minutes, pas beaucoup, juste 2 minutes, OK? Vous me pardonnez? Jésus était le meilleur expert en relation. 5 principes de relation que Jésus avait. Jésus aimait vraiment les gens. Il n'était pas hypocrite dans son amour. Jean 13, 3 dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jésus a tellement aimé qui est mort à la croix pour nous. Jésus aimait vraiment. Quand il disait « je t'aime », c'était vrai, c'était pas faux. Parce que Jésus mettait des actions à ses paroles, frères et sœurs. On ne faut pas juste aimer en parole. Un jour, je me suis fait reprocher ça et j'ai appris ma leçon. Il m'a dit « Joe, tu dis souvent « tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes » ou « je t'aime » ou « tu nous aimes », mais j'aimerais ça que tu me montes en action aussi. » J'ai appris. Deuxièmement, Jésus communiquait avec tout son cœur. Pourquoi? Parce que Matthieu 12, 34 dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que quoi? La bouche parle. Jésus s'assurait que dans son cœur, il était rempli d'amour, il était rempli de joie, rempli de paix, afin qu'il était capable de communiquer ça. Quand notre cœur est rempli de haine, qu'est-ce qui va sortir par notre bouche, frère et sœur? De la haine. Quand notre cœur est rempli d'animosité, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? La même chose. Alors, laissons notre cœur être travaillé. Troisième chose que Jésus faisait, il disait, nous allons être jugés de la même façon dont nous jugeons. Alors, Matthieu 7, ceci, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Il faut découvrir la grâce de Dieu, frère et sœur, et la donner. Il faut vivre sous la grâce de Dieu et la donner, frère et sœur. Est-ce que vous avez expérimenté la grâce de Dieu? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas expérimenté. Arrêtons de juger les gens. On a-tu détruit des gens en les jugeant? Combien d'entre nous, on s'est fait juger à tort et à travers? Et on a été blessés. C'est fini. C'est fini de juger les gens. Il faut arrêter ça. Il faut aimer, il faut valoriser. Quatrième, Jésus a dit que les plus grands sont des serviteurs. Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Même dans Matthieu 23, il dit ceci, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quelqu'un, quiconque s'élève, sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. » Il y a deux versets très intéressants dans la parole de Dieu. Il dit, l'orgueil précède la chute. Et le même verset en envers, ça dit, l'humilité précède la gloire. Ça dit même que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Qui veut la grâce de Dieu? Cœur d'humilité. Cœur d'humilité, cœur de serviteur. Le leader qui veut essayer de s'élever un jour va tomber. Le leader qui veut servir, Jésus va l'élever. Amen. La question n'est pas savoir qui va être à la droite de Jésus ou à la gauche. Cinquième point, Jésus traitait les autres comme il voulait être traité. Luc 6, 23, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. La règle d'or, la règle d'or. Traitez les autres comme vous voulez que vous soyez traité. Il n'y a personne qui aime se faire chialer après. Ça se dit-tu, chialer? Non? Critiquer? Y a-t-il un autre beau mot français que je pourrais apprendre présentement? Hein? Crier? C'est OK. Il n'y a personne qui aime ça, alors faisons pas non plus. OK, une question. Pensez aux personnes les plus difficiles à aimer dans votre vie. Écrivez pourquoi elles sont difficiles à aimer. Comment pouvez-vous commencer à voir les autres de la manière dont le Samaritain a vu son prochain? On va faire une petite œuvre. On va vraiment faire un petit travail quelques instants. Écrivez des personnes que vous avez de la misère à aimer. Écrivez le nom des personnes que vous avez de la misère à aimer présentement. Difficile. Oh. Vous avez de la misère, ça se dit pas, hein? Difficile à aimer. Écrivez le nom de personnes que vous trouvez difficiles à aimer présentement. Ils sont autour de vous. Si vous êtes à côté de votre femme, faites attention avant d'écrire son nom, s'il vous plaît, OK? Oui, vous pouvez écrire mon nom, si vous voulez. Je vais vous faire prier pour ces gens-là après. Fait que ceux qui veulent prier pour moi, je vais vous faire lever. Amen. Juste écrivez une, deux, trois personnes. C'est-tu votre assistant? C'est-tu votre voisin qui joue du drum jusqu'à 4 heures du matin? C'est qui? C'est-tu votre boss qui vous tombe sur la tomate? Ça se dit-il ici, tomber sur la tomate? Non?
Sur la tronche.
Sur la tronche? Ah, c'est... Y a-t-il un... Sur la tomate, sur la tête. Ça veut dire qu'il vous tombe sur la tête. Ça se dit-tu, ça? Il tombe sur le dos? Votre boss vous tombe sur le dos, là. Il vous fatigue. Il vous prend la tête. Avez-vous écrit? Qui a écrit des noms déjà? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, là. Hein? Je me sens comme tout seul, là, pour le moment. Qui a écrit des noms déjà? Qui aime tout le monde? Qui a personne? Ah, c'est bon, ça. On va prier pour ces gens-là, OK? On va tout de suite prier pour ces gens-là. Peut-être que vous ne les détestez pas, mais peut-être qu'ils sont juste difficiles à aimer. Tu sais, la personne qui est toujours dans votre bureau pour critiquer ce que vous faites, elle est peut-être bien gentille, mais par moments, elle est difficile à aimer. Hein? Amen. Priez quelques instants pour ces gens-là. Juste que le Seigneur vous demande des stratégies pour régler cette relation-là. Pour juste améliorer cette relation-là. Faites juste prier quelques instants. Vous savez, c'est très puissant ce qu'on fait. Jésus lui-même, il dit, aime tes ennemis. Et aimer nos ennemis, wow, c'est un des plus grands amours qu'il n'y a pas. Aimer ceux qui nous font du mal, peut-être, ceux qui sont difficiles à aimer. Juste prier quelques instants, peut-être dans vos têtes. Ou juste, Seigneur, juste déclarer. Déclarez la vie sur ces personnes-là. Déclarez pas la mort. Déclarez la vie sur ces gens-là. Bénissez-les dans le nom de Jésus. Souhaitez-leur la joie. Souhaitez-leur la paix. Souhaitez-leur la grâce de Dieu. Souhaitez-leur de l'amour de Dieu. Sans fil attaché au fait qu'ils changent ou qu'ils viennent vous demander pardon. Juste les bénir. Juste les relâcher. Peut-être qu'ils vivent des choses présentement et on n'est pas au courant. Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Bénis dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, j'ose déclarer que des nouvelles amitiés vont s'installer dans ce lieu. J'ose déclarer que peut-être qu'il y a eu de la division des frères, des sœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, par ta puissance, qu'il y ait de la réconciliation qui s'installe. De la paix qui s'installe, Seigneur. De l'amour qui s'installe. C'est fini la division entre frères et sœurs, Seigneur. Entre membres de la famille, Seigneur. Entre le fils et la belle-mère. Entre la fille et le beau-père, Seigneur Dieu. Entre les filles et les parents, Seigneur Dieu, je te prie une restauration, Seigneur Dieu. Il y a des gens qui ont été blessés, Seigneur. Je te prie de juste venir guérir les cœurs des gens blessés dans cette salle. Viens juste guérir le cœur des gens blessés dans cette salle, Seigneur Dieu. Dans ton nom, Père, tu es merveilleux, Jésus. Tu es glorieux. Tu es digne de louange, Père. Amen. Amen. Dieu est bon. Vous savez, même si on parle des choses très techniques, je crois qu'il faut toujours être capable de s'arrêter pour que Jésus fasse quelque chose de spirituel dans nos vies. Amen. On avance. Je sens que vous commencez à avoir faim, là. Celui qui assume la définition du leadership, c'est celui qui assume la responsabilité de la santé, du développement de ses relations. Celui qui assume la responsabilité de la santé et du développement de ces relations. C'est à nous, en tant que leaders, à assumer la relation et le développement des relations dans nos vies. Y a-t-il déjà quelqu'un qui est arrivé vous voir à votre église et vous dit, bien ici, on ne sent pas vraiment que c'est notre place parce qu'on n'a pas d'amis. Il n'y a personne qui est jamais venu vous dire ça à l'église? En tout cas, au niveau jeunesse, c'est beaucoup, mais même au niveau de l'église. Et à chaque fois, je leur ai dit, si tu veux des amis, sois un ami. Sois un? Ça se dit? Attendez-vous pas que les autres viennent vous voir, vous prendre soin de vous, puis faites-le, vous allez en trouver des amis. Si vous êtes inactif, vous n'en trouverez pas des amis. On est très, très, très distant aujourd'hui, les gens. Hein? On est très distant. On ne s'ouvre pas facilement. On n'ouvre pas oser ouvrir notre cœur à beaucoup de gens. Mais nous, si on est des amis, vous allez en créer des amis. Vous allez vous en faire des amis. Les amis, les gens aimables attirent des amis. Quatre analogies dans nos relations. Un, c'est l'analogie de hôte. L'idée, c'est qu'on soit des hôtes dans notre relation. On reçoit les relations. On ne s'attend pas que les gens nous reçoivent. Nous, on prend l'initiative, comme je viens de dire, d'être des hôtes dans nos relations, d'accueillir les gens dans notre vie, de leur laisser de la place, de leur faire un petit lit dans notre cœur, de leur laisser de la place pour qu'ils s'installent. Je vais toujours me rappeler ce que mon pasteur jeunesse a fait un jour. On avait un homme qui s'appelait Tigui National dans notre jeunesse. C'est un nom bizarre, hein? Mais on l'appelait Tigui National. Cet jeune homme-là était une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées après moi. Non. C'est une des personnes que j'ai rencontrées la plus intelligente. Elle jouait aux échecs et c'était imbattable. Elle pouvait te réciter tout le nom de chaque pape qui a été en place. Tu pouvais poser n'importe quelle question mathématique, il te le répondait à la seconde près. Le seul problème avec Tigui National, c'est qu'il puait comme jamais personne aussi a pué après moi. Non, non! Si je me suis vanté, il faut que je me cale un peu aussi. Mais il sentait pas bon. Y a-tu de quoi pour sentir pas bon ici en France qu'on dit? Il puait. C'est vraiment différent. Hein? Il sentait. Tu sais, mauvais, mais tu sais, pas juste mauvais, là. Mettez tous vos pires fromages ensemble, là, d'odeur, puis c'est... Non, ça se dit... Vous aimez pas quand on rit de vos fromages? Hein? Ah oui, pas juste une famille au complet. Quand il venait à la jeunesse, vous voyez, il était tout seul dans son coin. Pas parce qu'on ne voulait pas seulement l'aimer, parce qu'on n'était pas capable à 10 mètres de sentir. Il ne se lavait pas les cheveux. Il avait le même linge sur le dos. S'il aurait enlevé ses petites bobettes, ses petites culottes, je pense qu'il serait allé en courant dans la laveuse tant qu'il ne sente pas bon. Et mon pasteur jeunesse l'a pris chez eux. Il l'a emmené dans sa maison. Ça m'a toujours impressionné parce que j'ai aidé des gens, mais lui, il a vraiment aidé quelqu'un. Il l'a emmené, il l'a lavé lui-même parce que ce jeune homme-là s'était jamais lavé depuis des années. Ça partait là à la croûte. Il s'est pas lavé, il s'est décrouté. Décrouté. Et il l'a nettoyé et il l'a pris chez lui. Il l'a même adopté pour quelques moments. Ça m'a vraiment impacté. Vraiment impacté dans ma vie. Mais il a aimé quelqu'un, il a été un hôte de cette personne-là. Il l'a reçu chez eux, il s'est ouvert à cette personne-là. Pourtant, il n'y avait personne qui était prêt à le faire, mais lui, il l'a fait. Ça a été tout un exemple pour moi. Soyons des hôtes dans nos relations, frères et sœurs. Amen. Deuxièmement, l'analogie du docteur. Soyons des docteurs dans nos relations. Qu'est-ce qu'un docteur fait avant de vous donner une prescription? Ou qu'est-ce supposé de faire avant de vous donner une... Ça se dit-tu une prescription?
Oui.
OK. Qu'est-ce qu'il fait avant de vous poser? Il vous écoute. Il vous pose des questions. Moi, j'ai été opéré pour un cancer dernièrement. Le cancer de la vessie. J'ai eu un cancer de la vessie il y a 3 ans. Et j'ai été vraiment sécurisé qu'avant de m'endormir, il me pose la question. Monsieur, c'est-tu bien pour un cancer de la vessie qu'on vous opère? Oui. Je suis pas venu ici pour un changement de sexe, on se comprend. J'étais vraiment content qu'il soit sûr pourquoi qu'il m'opère. Que le jour que je me réveille, je suis la même personne. Il ne manque pas d'organes, il ne me manque pas rien dans les estomacs. Je suis encore complet. Avant, quand on rentre dans une amitié, avant de dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire ou comment ils devraient agir, soyons des bons docteurs. Posons des questions. Posons des questions. Avant de donner une prescription, si je vais chez le médecin pour un petit rendez-vous et j'ai le rhume, je ne veux pas qu'il me donne quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je veux pas qu'il me donne des antidépresseurs si j'ai juste un rhume. On s'entend? Je veux qu'il me donne la bonne chose. Avant de conseiller, qui est la troisième étape, l'analogie du conseiller, soyons des bons docteurs. John Maxwell a dit ceci, avant de parler une minute à quelqu'un, écoute-le 20 minutes. Avant de lui donner des conseils pendant une minute, intéresse-toi à lui pendant 20 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Vous allez avoir beaucoup plus de chances de cibler le vrai besoin dans vos relations ou dans la relation de la personne qui est devant vous. Et dernièrement, le quatrième point, l'analogie du guide. Du guide. Je trouve que la ville de Paris est la plus belle ville sur la planète. Je trouve que vous ne réagissez pas beaucoup, là, moi. Moi, si je serais vous, là, je serais là. Ah oh, oui, Joël, oui, t'es bon, lâche pas, oui, c'est vrai, la ville de Paris. Bon. Je veux juste m'encourager. Mais sérieux, je marche sur les Champs-Élysées et je sens que je marche dans l'histoire. Je vois l'Arc de Triomphe et c'est incroyable. Je vois la Tour de Paris. Je trouve mal de venir ici dans la ville la plus romantique que je connaisse sans ma femme. C'est comme la tromper, c'est vraiment terrible, je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que la prochaine fois, je veux l'emmener avec moi. La ville de Paris est extraordinaire, sauf que laissez-moi pas tout seul dans Paris, s'il vous plaît. Premièrement, chaque véhicule, on dirait qu'ils veulent me tuer. Et chaque bicyclette veut me repasser dessus après que je sois écrasé. Votre système de rue est toujours magique. À Philippe, je dis, pourquoi vous avez créé un centre rond et des rues qui partent toujours comme ça? Ça vous tentait pas d'être cartésien puis faire quelque chose de droit puis de carré? Non? Il y a toujours... Puis là, un moment donné, t'arrives que deux, trois rues se rencontrent comme ça puis c'est tout mêlant. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est mélangeant. Mais moi, je veux pas. Si vous m'emmenez à Paris, laissez-moi pas tout seul. S'il te plaît, soyez mon guide. J'ai besoin de guide. Les agents de voyage vous envoient dans un autre pays. Les guides vous emmènent avec eux. Moi, je veux un guide. Je veux que vous soyez mes guides. Pour les gens autour de nous, il ne faut pas juste dire OK, voici la destination. Vas-y. Tu te perdras en chemin. Il faut apprendre de nos propres erreurs. Non, je vais marcher avec lui. Viens-t'en, je vais te faire visiter le Louvre. L'autre fois, je me suis perdu dans le Louvre. C'est grand, le Louvre. J'ai visité le Louvre en 1h15. Ça prend 22 jours, visiter le Louvre. Et 14 te retrouver. Soyons des guides. Amen. Je peux-tu vous donner 4 points pour connecter un à un avec une personne? 4 points rapides, qui n'est pas dans le livre, mais comment connecter un à un. 1, porter de l'intérêt à cette personne. Ça va, vous allez voir, ça va juste reprendre tout ce qu'on a vécu, parlé plutôt. Porter de l'intérêt à cette personne. 2, mettez de la valeur sur cette personne. 3, mettez ses intérêts avant les vôtres. Et 4, exprimez de la gratitude à cette personne et pour cette personne. Vous me suivez? Voulez-vous que je répète? 4. Je vais commencer à 3, cause qu'il y en a qui sont encore à 2. Mais, puis on n'ose pas oser le dire. On est toujours de même, hein? On est le plus slow, mais on n'ose pas lever la main parce qu'on dit, mais il est donc bien lent, lui. 2. Mettez ses intérêts avant ceux des autres. Et 4. Exprimez de la gratitude, pas de la gratitude, mais de la gratitude à et pour cette personne. OK. Il nous reste 10 points qu'on va aller quand même assez rapidement parce que ça inclut vraiment tout. Il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter à ça. Mais après, j'ai une petite vidéo pour vous, OK? Alors, avant de finir, on va aller vers une petite vidéo. Ce que tout leader devrait savoir sur les gens en général. En passant, si vous voulez avoir vraiment beaucoup d'informations sur ce qu'on parle, achetez le petit livre de John Maxwell, Relations 101. Au lieu de l'avoir en 4 pages, tout ce qu'on vient de jaser, vous l'avez en 141 pages. Et je crois que c'est important de développer des relations, frères et sœurs. C'est vraiment le plus important. Alors, s'il y a un outil, vous pouvez prendre. Il y a l'autre, un autre outil aussi qui s'appelle « Il y a beaucoup de gens qui communiquent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connectent ». Je crois que tu l'as, ce livre-là aussi, en arrière. Je ne sais pas si tu peux me l'emmener, je peux le montrer. Il y a beaucoup de gens qui communiquent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connectent. All right. On commence. Êtes-vous prêts? 1. Les gens se sentent souvent insécures ou insécurisés. Je ne sais pas c'est quel mot qui est en arrière. C'est insécurisé. Les gens se sentent souvent insécurisés, alors donnez-leur de la confiance. Les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Les gens cherchent des choses dans la vie. Les gens ont peur. Qui sait que les gens ont peur autour de nous? Les gens ont peur. J'ai peur de faire ça. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai peur de rejeter. J'ai peur du rejet. Au lieu de nourrir la peur des gens, donner leur confiance. Non, Dieu. Dieu peut le faire à travers toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. On donne la confiance aux gens. Deuxièmement, les gens aiment se sentir exceptionnels. Honorez-le. Honorez vos gens. Arrêtons de demander aux gens de toujours nous servir sans les honorer en retour. Un petit merci, ça va loin, frères et sœurs. Un petit merci, ça va loin. Moi je suis... vous connaissez probablement le livre des 5... Gary Coleman, les 5... 5 langages d'amour, merci beaucoup. On parle de... des paroles de valorisation, on parle du toucher physique, on parle des cadeaux. Remplissez la teinte d'amour de des gens autour de vous. Moi, là, je vous le dis, moi, c'est des paroles de valorisation. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis, je ne suis pas le genre à m'enfler la tête parce que je ne suis pas le genre non plus à penser. Je ne suis pas le genre de gars qui pense qu'il a l'affaire. Je ne suis pas le genre de gars qui pense que, yes, t'es le meilleur, Joël, puis t'es en France, puis t'es hot. C'est vraiment pas ma pensée. Je suis très low profile. Alors, si vous voulez me bénir, là. Mais il faut découvrir ce que les gens ont besoin. Si tu donnes... Moi, mon langage d'amour aussi, c'est les cadeaux. J'aime ça, les cadeaux. En passant, tant qu'à y être, je vais tout vous dire. Hein? Je vais tout vous dire en passant, on ne sait jamais. Seigneur, inspire présentement. Seigneur, inspire. Et j'avais tendance à aimer ma femme en lui donnant des cadeaux. J'achetais des beaux cadeaux. Elle les aimait, mes cadeaux. Mais ça ne remplissait pas sa teinte d'amour. J'ai compris un jour, que ma femme aimait du temps de qualité. Et je pouvais y acheter tous les cadeaux du monde. La seule chose qui va arriver, c'est que je descends à mon compte de banque. Mais si je m'arrête 10 minutes, alors que je devrais faire d'autres choses, puis que j'ai le goût de faire d'autres choses, parce que je suis pressé, mais si je m'arrête 10 minutes pour prendre du temps pour elle, ça vaut toute l'or du monde. Alors, trouvez ce que les gens ont besoin autour de vous et remplissez leur tank d'amour. Remplissez leur tank d'amour. Amen? C'est bon, ça? Je ne pensais pas dire ça. Merci, Gary Coleman. Deuxième chose, honorez-le. Dites-leur merci. Sortez-leur au restaurant. Amenez-les manger avec vous. Amenez-les à la maison. Achetez-leur un petit livre de temps en temps. Écrivez à vos leaders. « Hey, je pensais à toi. J'ai trouvé un bon livre de John Maxwell ou de Paul Goulet en fin de semaine. » Il ne manque pas le livre de Joël Dumaine qui va sortir en 2042. Mais offrez-leur un petit cadeau et dis « Hey, je te remercie pour tout l'effort que tu fais à ma place, à côté de moi, puis je vais investir en toi. » Amen. Est-ce que le monsieur à la table peut dire merci présentement? Alléluia, amen. Yes. As-tu compris que j'aimais les cadeaux? Non, non, c'est correct. Les gens cherchent un avenir. Donnez-leur de l'espoir. Dites aux gens qu'ils sont dans la bonne équipe. Dites-leur qu'ils font partie de la bonne équipe. Dites-leur, à chaque dimanche, donnez de l'espoir aux gens. Je vais être franc avec vous. Je crois que le dimanche, on doit dire la vérité. Mais si les gens viennent à l'église, puis ils ressortent de l'église, puis ils se sentent condamnés, on ne fait pas la job. Je crois que le dimanche, déjà qu'on ne les voit pas assez souvent, nos gens, s'il y a une chose qu'il faut s'assurer de faire, c'est quand ils sortent de dimanche matin, ils se ressentent valorisés. Ils se sentent, il y a de l'espoir. Même si ça va mal dans mon couple, il y a de l'espoir. Puis qu'ils pensent pas qu'il faut pas qu'ils sortent le dimanche matin en pensant, ben, je suis pas correct, puis ça fait, puis ils se traînent la tête dans le plancher. En dessous du tapis, ça se dit-tu, ça, en dessous du tapis? Hein? Non, ça se dit pas. Ça se dit pas? Vous comprenez? Ça serait une bonne expression à apprendre, ça. Dites-le avec moi. Il y a la tête en dessous du tapis. Dites-le, il y a la tête en dessous du tapis. Ouais. Vous voyez, vous êtes des vrais Québécois. Quatrième chose, les gens ont besoin d'être compris. Écoutez-les. Écoutez-les. On en a parlé tantôt. Comprenez leurs besoins. Oh, écrivez ceci. Écrivez ceci. Comment aiguiser nos relations, nos aptitudes relationnelles? Un, ayez la tête d'un leader. Ayez la tête d'un leader, ce qui veut dire comprenez les gens. Ayez la tête d'un leader. Comprenez les gens. Ayez le cœur d'un leader. Aimer les gens. Et dernièrement, ayez les mains d'un leader et aider les gens. Juste une petite interlude. Les gens, 5, ont besoin d'orientation. Oui, 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 ben oui, ben oui. Aucun problème. Pas de souci. C'est bien dit, ça? Mais là, je l'ai dit à Québécois, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Un, ayez la tête d'un leader. Comprenez les gens. Ayez le cœur d'un leader. Aimez les gens. Ayez les mains d'un leader. Aidez les gens. Jésus, il touchait aux lépreux, frères et sœurs. Tout le monde les mettait dans des... à l'écart, Jésus allait les toucher. Les gens manquent d'orientation, guidez-les. On en a parlé tantôt, les gens manquent d'orientation, guidez-les. Les leaders doivent connaître le chemin, les leaders doivent suivre le chemin, et les leaders doivent montrer le chemin. C'est bon ça? 6. Vous me suivez? Ça avance vite. Les gens sont dans le besoin. Occupez-vous d'abord de leurs besoins. Identifiez leurs besoins. On en a parlé, ça peut être des besoins émotionnels, comme les 5 langages d'amour, mais donne-leur... C'est quoi le verset qui dit? Si vous demandez à votre Père pour le Saint-Esprit, il va-tu vous donner une roche puis du pain, c'est ça? Du pain? Une pierre? Ben une roche, c'est une pierre pour nous. Okay. Si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, il vous aime assez, que c'est ça qu'il va vous donner. Il ne vous donnera pas d'autre chose. C'est la même chose. Identifiez les besoins des gens et offrez-leur ce qui va combler leurs besoins. Amen. C'est la même chose dans nos prédications. Est-ce que nos prédications rencontrent un besoin? Pour être pertinent aujourd'hui, il faut que nos prédications rencontrent le besoin des gens. Moi, j'aime quand les gens viennent me voir et me disent « Joël, ce que tu as dit aujourd'hui s'applique totalement à ce que j'ai vécu cette semaine. » Ça, ça veut dire que ma prédication est pertinente. Je ne parle pas pour des besoins qu'il y a 40 ans, je parle pour les besoins qui sont aujourd'hui. Septième chose, les gens sont découragés. Encouragez-les. Les gens sont découragés. Huitième, les gens veulent réussir. Aidez-leur à vaincre. Les gens veulent réussir. Aidez-les à vaincre. Il n'y a personne qui veut échouer dans la vie. Hein? Il n'y a personne qui commence sa vie en disant « je vais échouer mon mariage », qui se marie en disant ça. Il n'y a personne qui naît en pensant que je vais échouer. Mais les gens veulent réussir, mais honnêtement, les gens ne savent pas comment réussir. Et souvent, ils pensent qu'ils peuvent réussir selon le monde et s'aperçoivent que leur vie n'est pas une réussite. Mais Jésus est celui qui donne la vraie vie, frères et sœurs. Et la vie en abondance. Alors, aidons-leur à réussir. Les gens désirent avoir de bonnes relations, alors créez la communauté autour de vous. Créez la communauté, créez des liens, créez des occasions pour que les gens aient des liens ensemble. Invitez-les à souper. Vous aimez ça manger les Français? Vous aimez ça jaser les Français? Hein? Jaser, ça se dit pas? Parler? Oui, vous aimez ça? Vraiment, vous mangez très, très bien, très, très bien. Je suis impressionné. Je mange tellement bien ici que j'ai des brûlures d'estomac. C'est vrai? Parce que c'est tellement bon que c'est de la misère, là. Mais créer de la communauté, inviter des gens. Je ne sais pas pour vous, mais nous, au Québec, on ne mange pas aussi bien que vous. Ben, c'est une chose. Mets de la bouffe, puis tu vas avoir plein de gens. Mets un petit peu de bouffe quelque part, puis on est comme des mouettes chez McDonald's. Je ne sais pas si vous avez des mouettes chez McDonald's. Vous n'avez pas ça, des mouettes ici, hein? Oui? Des goélands? Des mouettes? Des mouettes? Hey, vous parlez en québécois, des mouettes! Des mouettes! Et nous, chez nous, autour du McDonald's, il y a toujours une centaine de mouettes. Parce que les petites frites qui restent tombées à terre, ça les attire. Mettez un petit peu de bouffe. Quelque part, vous allez voir, vous allez attirer des gens. « Hey, viens pour un petit repas. Viens pour un petit repas après l'église. » Vous allez créer de la communauté, des gens qui se parlent. 10. Les gens sont à la recherche de modèles à suivre. Soyez un exemple. Soulignez ce que François d'Assise a dit. Il dit « Prêchez l'Évangile tout le temps. Si nécessaire, utilisez des mots. » On l'a déjà entendu, celle-là. Hein? « Prêchez la parole en tout temps et si nécessaire, utiliser des mots. » Ce qui veut dire que notre vie devrait être la chose qui parle le plus pour la gloire de Dieu. Amen. Je peux-tu vous montrer une dernière vidéo? Vous l'avez probablement déjà vue, mais au cas où qu'il y en a ici qui ne l'ont jamais vue, je vais vous donner l'occasion de... Attends deux secondes, je vais juste expliquer. Il y a quelques années, un couple d'Américains, la dame est tombée enceinte et les docteurs ont vu qu'elle était déjà malade et qu'elle était pour naître paraplégique. Ils savaient déjà dès dès sa naissance. Il y a un couple de notre église qui a vécu la même chose dernièrement et ça m'a tellement bouleversé. Dès la 11e semaine, ils ont su que leur bébé était pour être né. Les petits membres. Je ne sais pas comment vous dites. Nain, non? Nain? Excusez, nain. Nain. J'essaie de dire comme il faut. Nain. Nain. Imaginez-vous savoir votre temps. Aujourd'hui, là, on n'a plus de surprise. On sait si c'est un gars, si c'est une fille. On sait s'il est en santé et s'il n'est pas en santé. Et tout le monde leur a conseillé de l'avorter. Excepté nous dans l'Église où on les a encouragés, mais le médecin, les infirmières, tout le monde, les gens à leur emploi, tout le monde, et ils ont fait le courage de l'avoir pareil. Et elle est née naine. Mais aujourd'hui, c'est les parents les plus heureux du monde. Il y a des gens handicapés autour de nous, frères et sœurs. Il y a des gens handicapés spirituellement autour de nous. Est-ce qu'on va les avorter? Ou on va les faire venir au monde et on va prendre soin d'eux? Et cette famille sur vidéo, probablement vous l'avez déjà vu, mais ont eu ce garçon-là paraplégique et à l'âge de 12 ans, il avait un petit ordinateur. Le premier mot qu'il a écrit sur son ordinateur, c'est « Go Bruins » pour les Bruins de Boston, une équipe d'hockey. Et son père a réalisé que peut-être que son garçon aimait du sport. Alors, il a commencé à l'emmener à des matchs de hockey des Bruins de Boston. Et le fils était tout content. Il a commencé à l'emmener, pour la première fois, il l'a emmené au marathon de Boston. Et son fils a écrit sur son petit ordinateur, il a écrit « Papa, j'aimerais ça courir. » Je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début, mais le garçon est paraplégique. Et son père a dit « OK, on va commencer à courir. » Et il a fait un véhicule spécial, il a commencé à courir avec son fils. Et son fils a dit « Papa, j'aimerais ça faire du triathlon. » Je ne sais pas si vous savez c'est quoi du triathlon, mais c'est de la course, de la bicyclette, et de la natation. Et il a commencé à courir avec lui, et à la fin de chaque course, plutôt à la fin de la première course, plutôt, il a dit à son père, il a écrit sur son ordinateur, il dit, « Papa, quand je cours avec toi, je me sens plus handicapé. » Champlure, là. Et aujourd'hui, ils ont couru plus de 700 courses ensemble. 700 courses ensemble. Le monsieur a près de 70 ans aujourd'hui. Ils en ont gagné 200 ensemble dans la catégorie avec handicapés. Probablement, vous l'avez déjà vu, cette vidéo-là, mais je veux juste, si vous l'avez jamais vu ou si vous l'avez déjà vu, parce que moi, à chaque fois que je le vois, je pleure. Pour moi, cet homme-là représente l'amour de Dieu et la compassion. Et c'est le cœur que je veux pour les gens autour de moi. Amen. Télésino. Ensemble, ils ont la puissance. Ne courez jamais seul. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Mon Dieu, il me prend dans ses bras. Mon Dieu, il court avec moi. Mon Dieu, il s'assure que je suis bien, mon Dieu. Même si je suis handicapé, il y a tellement de fois où je me sens handicapé, où je sens que je n'ai pas toutes les ressources pour être le leader que je dois être, où je n'ai pas toute la connaissance ou les capacités pour être le leader que Dieu m'appelle à être. Mais Dieu, il court avec moi. Et Dieu veut me transporter jusqu'au fil d'arrivée. Ne courons jamais seuls, frères et sœurs. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin qu'on les transporte. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de notre amour. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin qu'on les prenne dans nos bras parce qu'ils ne savent pas comment marcher. Ils ne savent pas comment parler. Ils ne savent pas comment avancer. Et on a besoin qu'on les prenne. Moi, j'aime l'image qui me fait tellement pleurer. Quand il prend son fils du bateau, il le prend dans ses bras, il le transporte sur la bicyclette. Mais je dis, vous, il nageait et son fils était attaché dans un bateau en arrière. Wow, ça, c'est de l'amour. Frères et sœurs, c'est cet amour-là qu'on a besoin. C'est cet amour-là qu'on a besoin. Seigneur, je te prie juste maintenant de juste venir déposer ton amour en dedans de nous. Dépose ta compassion en dedans de nous, Seigneur. Change nos vies, change nos yeux, Seigneur. Change nos façons de voir les gens. Donne-nous tes lunettes, Seigneur, qu'on voit les gens comme toi tu les vois. Aide-nous à développer des relations humaines. Aide-nous à développer les gens autour de nous pour ta gloire. Père, je veux juste te remercier que tu m'aimes de cette façon-là. Que tu m'aimes malgré mes faiblesses, mes fautes, mes erreurs, mes péchés. Et que tu m'aimes, tu me pardonnes. Et à chaque fois, tu me prends dans tes bras d'amour et tu me serres tout fort contre toi. Merci, papa. Qui l'avait jamais vu pour la fun? Ouh, plus de monde que je pensais. Je pensais que j'étais pour être du vieux vin, là. S'il y en a qui veulent l'avoir en arrière, vous pouvez aller le chercher. Il est sur ma clé, alors vous pouvez le prendre. Celui qu'il y en a qui voudraient les deux vidéos. Dernière question, et je vais vous laisser jaser, et après on va aller dîner. Hein? Ah oui, c'est vrai, déjeuner.
Déjeuner.
Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés dans vos relations? Faites une liste des personnes dont vous pensez que Dieu aimerait vous voir accompagner et diriger plus efficacement. Efficacement. Faites une liste de personnes, peut-être dans votre entourage, que vous pouvez investir. Mon épouse vient de partir un groupe de femmes à l'église de futurs leaders. Et je suis tellement béni qu'elle prenne son rôle, qu'elle prenne l'appel qui est sur sa vie. Et les femmes dans l'église sont en train de... dans leur leadership, prendre encore plus de place parce qu'elle a décidé qu'il faut qu'elle investisse en eux. Et dernièrement, comment pouvez-vous commencer à vaincre ces difficultés et vous lier avec ces personnes-là? Quelle stratégie vous pouvez appliquer pour les accompagner plus efficacement? Alors, répondez à ces questions-là et ensuite, mettez-vous... Est-ce combien il nous reste de temps? Bon, je vais vous laisser répondre ces questions-là individuellement et Philippe va venir dans 10 minutes vous relâcher pour le dîner, OK? C'est bon? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Yes! Je vous aime. C'est bon. Merci pour cette personne. Alléluia, amen.